Chapitre 72. À la fin du jour, Angicourt était un village mort. Les habitants semblaient s'être parqués dans leur demeure comme après une alerte à la bombe. Rue déserte, volets clos, macadam luisant sous l'éclairage morne des lampadaires qui venaient de s'embraser. Dans le moindre interstice non bétonné, les arbres s'incrustaient, leurs longues silhouettes noires se dressant telles les gardiens d'un sanctuaire. Les quatre policiers, serrés dans le même véhicule, ne disaient pas un mot. Ils contemplaient le paysage qui défilait, concentrés, chacun dans ses pensées. Dans le rétroviseur, Frank voyait la crispation sur leurs traits, ce subtil mélange de peur et d'excitation qui ombrageait le regard et pinçait les lèvres. Il ne comptait plus le nombre de fois où, ensemble, ils s'étaient retrouvés ainsi, à traquer le mal, à aller le déloger de son antre. Il n'avait pas eu de difficulté à glaner des informations sur l'homme qui apparaissait aux côtés de Clarisse Lansall. Boris Karloff, 54 ans, un ancien de l'université de médecine de Montpellier, était un grand spécialiste du système vasculaire du cerveau et avait également exercé la neurochirurgie au bâtiment Babinski de la Salpêtrière jusqu'en 2016. Il avait donc passé ses journées à ouvrir des crânes dans le même hôpital que Marc Victor. Ensuite, il disparaissait des écrans radars, ce qui appuyait l'hypothèse de Charcot. Karloff avait tout plaqué lorsqu'il avait appris pour la maladie incurable de Lansall. À la sortie du bourg, la voiture bifurqua sur une petite route vraiment étrange. D'un côté, il y avait des pavillons plutôt avenants, volets aux couleurs vives, balançoires et salons de jardin encore en place. De l'autre, la vue était obstruée par de vieilles clôtures en béton hérissées de barbelés, contre lesquels s'écrasait une végétation extrêmement dense. Des arbres touffus montaient ainsi à plus de 10 mètres, créant une muraille infranchissable. Les flics comprirent qu'il s'agissait là des frontières extérieures de la propriété de Clarisse Lansall. Parfois, sur quelques mètres, la nature se retirait, laissant apparaître la silhouette d'un pavillon fatigué ou un ersatz de bâtiment administratif. La voie se termina en cul-de-sac sur une barrière anti-voiture. Derrière, un sentier de promenade se perdait dans la forêt. Le GPS avait indiqué cet endroit pour l'adresse du sanatorium, mais l'entrée à proprement parler était de toute évidence ailleurs. Frank fit demi-tour et tourna sur la droite, à 1 kilomètre de là, misant sur le fait que, en suivant les murs d'enceinte, il finirait bien par découvrir un moyen de pénétrer dans le sanctuaire. 5 minutes plus tard, à la croisée de 2 chemins, ils arrivèrent devant un porche en brique fermé par un grand portail. Au-delà, une allée s'enfonçait dans la végétation. Les policiers se garèrent plus loin, s'équipèrent et revinrent à pied. Pas d'interphone, pas de caméra. Le portail semblait s'ouvrir à l'aide d'une grosse clé. Frank enserra les barreaux, essayant de forcer. Du solide et beaucoup trop haut pour espérer l'escalader. Sur sa gauche, son groupe s'éloignait déjà en longeant la clôture. Charcot savait que rien ne les découragerait. C'était ce soir-là qu'ils en finiraient. Après 300 ou 400 mètres de marche, ils débusquèrent un endroit derrière des buissons où des planches avaient été empilées et le barbelé découpé. Sans doute des amateurs de sensations fortes qui avaient cherché le frisson. Frank s'y faufila le premier, suivi par les autres. Ils atterrirent au milieu des arbustes, des ronces et des feuilles mortes, dans une espèce de sous-bois dense, peinèrent à progresser là, jusqu'à ce qu'ils dénichent un minuscule chemin qui les mena vers une allée bitumée, crevée de part en part par les racines et les touffes de mauvaises herbes. Les vieux panneaux renversés indiquaient des directions, alors que surgissaient, comme d'un cauchemar, les vestiges du passé. À effleurer les décombres, les édifices en lambeaux, on pouvait encore sentir la maladie. Percevoir le souffle éraillé des tuberculeux qu'on regroupait jadis par milliers dans cette immense enceinte.
« Il y a des bâtiments partout, » fit Lucie. « Par où on commence ?»«
Je n'en sais rien. Pour l'instant, ce qu'on voit est trop abîmé pour qu'elles vivent dedans. Avançons. »
La luminosité déclinait à grande vitesse et, un quart d'heure plus tard, la nuit serait là. Ils doublèrent un parking, un château d'eau, deux pavillons de plain-pied qui ressemblaient à des salles de classe oubliées, et traversèrent l'aire de jeu. Une balançoire oscillait, rappelant cruellement que des enfants aussi avaient vécu là, sans doute emportés trop tôt. Plus loin, par-delà les frondaisons, les policiers devinaient les longues toitures des hôpitaux jumeaux.
« Ce n'est pas quatre qu'il aurait fallu être, » grogna Robillard, « mais une armée entière. »«
Raison de plus pour être méthodique, » répliqua Charcot. « Lucie et Pascal, allez regarder du côté droit. Avec Nicolas, on s'occupe de la gauche. Au moindre signe de vie, on se contacte. »
Franck et Nicolas mirent 5 minutes à bon rythme pour s'approcher de leur objectif. Celui-ci paraissait intégré à la végétation. Néanmoins, une infime portion de l'aile ouest avait été ravalée. Les ardoises et quelques fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage avaient l'air intactes. Le cœur battant, les policiers longèrent les façades et grimpèrent les marches qui conduisaient directement dans la gueule du monstre. Un couloir immense leur cracha en pleine figure son haleine glacée. Sans hésiter, ils s'y engagèrent. Ici résonnait encore l'écho d'un lourd passé. Des cellules aveugles avec des casiers ouverts, des bureaux et des lits en pagaille, des salles d'eau avec des baignoires fendues. Tout était détruit, pillé. Quand ils bifurquèrent dans une aile perpendiculaire, le portable de Charcot vibra. « Venez vite derrière autre hôpital, maison qui semble habitée. »«
Ils ont trouvé !» lança Charcot.
Ils ressortirent aussitôt et s'élancèrent vers le bâtiment jumeau. Après qu'ils l'eurent contourné, ils purent apercevoir, plus loin, une lueur dans les bois vers laquelle ils s'orientèrent. Leurs collègues patientaient entre les arbres, près de l'allée qui menait à une grosse bâtisse. Celle-ci avait été rénovée. Elle était cernée d'un grillage neuf et d'un portail dont un des vantaux était entrebâillé. Une lampe était allumée au deuxième et dernier étage. La maison était reliée à une dépendance, aux allures de hangar sans fenêtre, par une verrière semi-circulaire recouverte de lierre et de liserons. Une lumière bleutée filtrait sous la porte arrière de cette partie du logement. Intrigué, Frank s'en approcha avec prudence et plaqua son oreille dessus. Il avait l'impression d'entendre le bruit angoissant d'un respirateur comme dans la chambre d'Audra. Après un regard vers son équipe, il baissa la poignée en douceur. Étrangement, il ne fut pas surpris lorsqu'il constata que l'issue n'était pas verrouillée. Depuis leur incursion sur la propriété, il avait cette curieuse et désagréable sensation que Clarisse Landsal les attendait. Arme braquée, couvert par ses coéquipiers, il poussa le battant du bout du pied. Leur présence déclencha l'allumage de spot au ton bleu lagon. Ils s'engagèrent dans une sorte de sas étroit. Partout, contre les murs, des étagères, des éprouvettes, des bouteilles d'oxygène, des tuyaux, des compresses et des dizaines d'appareils électroniques complexes. Le chef de groupe plissa le nez en apercevant, dans des bocaux éclairés par les jeux de lumière, des cerveaux en suspension dans un liquide translucide d'un jaune pâle. Des étiquettes indiquaient « Essai port numéro 1, essai port numéro 2 ». Il revit alors les cadavres des animaux gisant au sol dans l'abattoir, le chien courir vers eux avec son masque flasque de cochon. Ainsi, les organes étaient ici, préservés dans une morbide collection. Il se tourna une fraction de seconde vers ses collègues, qui se trouvaient dans le même état de tension que lui, et poursuivit sa progression. Le bruit de respiration artificielle, cet abominable froissement de l'accordéon se tendant et se détendant, s'amplifiait à mesure qu'ils avançaient vers le fond, là où l'espace s'agrandissait. Quand Charcot franchit enfin le seuil de la pièce, il se figea d'effroi.